À vos manettes, quittez la vie réelle pour plonger dans un monde de pixels. Cordialement Geek, la chronique high-tech et jeux vidéo avec Loli sur Neptune FM.
Bien le bonsoir, bienvenue sur Neptune FM pour cette nouvelle émission de Cordialement Geek. Cette semaine, je vais vous parler de Diablo 4. On parlera ensuite des tops des ventes de jeux vidéo de la semaine dernière, d'une news concernant le jeu Call of Duty Warzone. On aura ensuite une petite news événement avec le rétro gaming qui s'installe à la Vendetech de la Châtaigneraie. Et on aura donc les petites sorties de la semaine, il y en aura juste deux, pour terminer l'émission. On commence donc avec le test de Diablo 4, donc c'est un jeu vidéo d'action RPG de type hack and slash qui est jouable en solo et en multijoueur. Il a été réalisé par Joe Shelley, produit par Tiffany Watt et développé et édité par Blizzard Entertainment. Il constitue le quatrième épisode principal de la série Diablo, faisant suite à Diablo 3 qui était sorti en 2012, donc il y a 11 ans. Annoncé durant la BlizzCon 2019, il sort le 6 juin 2023 sur Microsoft Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series. Le jeu permet une jouabilité multiplateforme, il est aussi bien possible de jouer avec l'un des personnages de son compte Battle.net sur PC que via l'une des consoles. De plus, il est possible pour des joueurs disposant de plateformes différentes de jouer ensemble. Dans Diablo 4, les amateurs de hack and slash sont réunis dans un monde partagé pour braver des donjons aléatoires remplis d'ennemis et de butins, ou pour s'entretuer lors de combats PVP. 5 classes sont jouables, dont le barbare, la sorcière et le druide. Chacune dispose d'arbres de talents et de compétences personnalisables à conjuguer avec un système de butins comprenant des objets légendaires et d'ensembles à collectionner, des combinaisons de runes et d'émaux runiques, ainsi que des montures personnalisées pour parcourir le monde ouvert. Le jeu est classé PEGI 18 et il obtient une note de 17 sur 20 de la part de jeuxvideo.com pour une note globale de 87 sur 100 sur Metacritic. Avec ses 3 premiers épisodes, la saga Diablo a sans aucun doute façonné le monde du jeu vidéo tel qu'on le connaît aujourd'hui. Diablo 4 a donc la lourde tâche de faire, si ce n'est mieux, aussi bien que 3 grands jeux du hack and slash. Un quatrième volet considéré comme le meilleur de tous par Rod Ferguson, le responsable de la franchise chez Blizzard. Mais qu'en est-il vraiment? Donc il est compliqué de répondre à cette question tant les temps ont changé. Diablo 3 est sorti en 2012 avec l'ambition d'attirer un public encore plus large que ne l'avait fait Diablo en son temps. 11 ans et 65 millions de joueurs plus tard, on peut sans aucun doute dire que la mission est réussie. Le secret de ce succès tient en partie de l'histoire racontée qui n'avait jamais autant pris de place dans un jeu Diablo. Un point sur lequel Blizzard a travaillé corps et âme, non seulement la campagne de Diablo 4 dure environ 2 fois plus longtemps que celle de son prédécesseur, mais elle bénéficie d'une mise en scène très soignée. Les cinématiques sont nombreuses et on sait à quel point Blizzard excelle dans ce domaine, d'autant qu'il les a rendues immersives. Le personnage créé et personnalisé par le joueur se démarque par sa présence et ses discours. Il faut dire qu'il a son mot à dire, son sang a été mélangé à celui de Lilith. Donc c'est la créatrice de Sanctuaire, mais surtout la fille de Mephisto, le seigneur de la haine et l'un des 3 plus gros démons des enfers. Elle a été libérée de sa prison et n'a qu'une seule envie, soumettre l'humanité pour l'exécution de ses desseins. Donc c'est grosso modo l'intrigue de Diablo 4. Il s'agit encore d'un conflit angélo-démoniaque, mais dont rien n'est tout ni ange ni tout démon. Elle se déplie au fur et à mesure avec l'arrivée de protagonistes aux personnalités fortes. On ne s'attache pas forcément à tout le monde, mais on arrive à respecter les convictions de chacun. Un point fort indéniable, d'autant qu'elles sont mises en valeur par un doublage français d'excellente qualité. C'est notamment Damien Boisseau, qui double notamment Matt Damon, qui se démarque par sa qualité de narrateur à travers le personnage de Laura Snar. L'histoire s'est donc plus que rajeunie avec une mise en scène éblouissante, là où le gameplay est resté identique. Est-ce dans les vieux pots que l'on fait les meilleurs remèdes anti-démons? Probablement, puisque le gameplay de Diablo 4 est toujours aux petits oignons et aux principes strictement identiques. On dérouille des ennemis, on récupère leur équipement, on dérouille des ennemis plus puissants, et ainsi de suite. La prise en main est quasi instantanée. Un joystick pour se déplacer, une touche pour esquiver, les autres pour lancer des capacités. Les sensations de combat sont toujours aussi proportionnellement grisantes au nombre d'ennemis annihilés, même si on pourra se frustrer sur la visée automatique qui n'en fait qu'à sa tête avec la manette. Rien de bien difficile à comprendre, mais ce n'est pas pour autant que c'est simpliste. On pourrait même dire que sur le sujet, Diablo est remonté 25 ans en arrière. C'est effectivement l'arbre de talent de Diablo 2, modernisé, qui fait son retour. Il est divisé en 7 paliers, chacun représentant un ensemble de pouvoirs précis. Le premier concerne l'attaque de base, le second la compétence principale, là où l'avant-dernier octroie une compétence ultime. Une architecture similaire dont le fond changera en fonction de votre classe. Donc il y en a 5 pour le lancement de Diablo 4. Le barbare compte sur son attirail de 4 armes et ses attaques au corps à corps. Le voleur s'appuie sur son agilité et peut aussi bien attaquer à l'arc qu'avec des dagues. Le nécromancien emploie la magie du sang et des familiers qu'il fait revenir d'entre les morts. Le sorcier utilise des gros sorts de zone basés sur le feu, la foudre ou le givre. Le druide peut emprunter des formes animales tout en s'appuyant sur les magies de la nature. Chacune de ces classes ont une identité bien à elles de par leur pouvoir, mais aussi grâce à leur quête de classe qui permet d'améliorer un aspect de leur capacité. Donc une fois le choix de la classe réalisé, le joueur monte alors en niveau. Il récupère des points de compétences qu'il peut directement investir dans cet arbre de talent. Chaque classe affiche à minima 3 grandes spécialisations. Concernant le sorcier par exemple, ce sont feu, foudre et givre. Mais la variété des builds ne s'arrête pas à ces 3 spécialisations par défaut. Elle sera probablement moins intéressante que chez des concurrents du genre, mais reste très convaincante. Il y a de nombreuses choses à tester et l'on prend un certain plaisir à bricoler un build efficace contre un ennemi qui nous aurait causé du fil à retordre à plusieurs reprises. Pour autant, l'utilisation de l'interface ne rend pas les choses faciles. On perd pas mal de temps dans les menus lorsqu'on le remet ses talents à zéro. On aurait donc aimé avoir une page de profil permettant d'y enregistrer nos builds historiques et de ne pas devoir tout refaire à la main lorsque la situation le demande. Un écueil que l'on observe également pour les équipements, tout aussi utiles que les sorts pour exploser du démon. Surtout lorsque celui-ci est légendaire ou unique. Un type de rareté réservé aux objets qui influencent directement vos sorts. Certains peuvent augmenter le nombre de vagues de sang du nécromancien et d'autres renforcer la puissance d'un ouragan du druide tant qu'il reste sur le terrain. Il existe de nombreux objets légendaires à récupérer dans Diablo 4 et même après 40 heures à Sanctuaire, on a le sentiment de n'en avoir vu qu'une petite partie. La difficulté est toujours un délicat sujet quand il s'agit de Diablo. Le deuxième est considéré comme trop dur par certains et le troisième trop facile par d'autres. Avec Diablo 4, on a vraiment le sentiment que Blizzard a réussi à viser juste. La campagne est disponible en niveau de monde 1 ou niveau de monde 2 et sert vraiment de longue introduction aux mécaniques du jeu. Le niveau de monde 1 s'adresse aux non-initiés, tandis que le niveau de monde 2 peut poser de légers problèmes, mais rien de trop important. Il y a toujours le mode extrême pour ceux à la recherche de challenge, un mode où la mort est synonyme de suppression de son personnage. Le défi commence réellement à partir du niveau de monde 3 qui est débloquable une fois la campagne terminée. Voilà, on va faire une petite pause dans ce test, on va s'écouter une musique extraite de l'OST du jeu Diablo 4, c'est Mother of Sanctuary composé par Ryan Amon et on revient juste après. Donc c'était la musique Mother of Sanctuary composée par Ryan Hammon et extraite de l'OST du jeu Diablo 4. On va donc poursuivre avec la deuxième partie de ce test. Donc globalement, rien de neuf sous le soleil de Sanctuary, me direz-vous. Eh bien, vous ne croyez pas si mal dire. Outre une mise en scène bien plus spectaculaire qu'auparavant, c'est surtout par son exploration que Diablo 4 se distingue de ses prédécesseurs. Notre héros vagabonde sur le continent d'Estuar, un monde ouvert divisé en 5 régions bien distinctes. Sommets enneigés, marécages, déserts infinis et zones démoniaques en tout genre, les biomes sont variés. Certains donnent même le sentiment qu'ils auraient pu servir pour un remaster du premier épisode. Malheureusement, une partie des joueurs regrettera le degré d'ouverture d'Estuar. On peut bien se rendre où on le souhaite dès le début, mais les monstres au niveau bien supérieur à celui de son personnage risquent d'en dissuader plus d'un. Mais est-ce vraiment un défaut ? Pas le moins du monde, tant les activités annexes sont nombreuses. Je ne vais pas les détailler, mais elles permettent de casser la monotonie d'un voyage, qu'il soit pour une quête annexe ou la campagne principale. En plus de tout offrir de l'équipement pour notre personnage, elles possèdent une seconde utilité, être bénéfiques pour nos personnages secondaires. La découverte de nouvelles zones, la reprise des bastions aux mains ennemies ou encore les quêtes secondaires permettent d'accumuler du renom. C'est une espèce de barre de popularité propre à chaque région qui débloque des récompenses liées au compte via 5 paliers. Ces bonus peuvent être une potion supplémentaire utilisable ou bien l'attribution d'un point de compétence. Des récompenses bienvenues qui arrivent à faire oublier la répétitivité de certaines de ces tâches, une redondance qui devrait en agacer certains, surtout au niveau des donjons dont les boss sont souvent les mêmes. Néanmoins, il y a un réel plaisir de l'exploration et le jeu ne dévoile pas trop vite tous ses secrets et, encore une fois, on a encore envie de les découvrir après une grosse quarantaine d'heures déjà passées dans Estuar. Le seul petit bémol de cette exploration vient de l'arrivée trop tardive. Malgré une campagne solide et une exploration riche en activités, c'est probablement le contenu endgame qui intéresse la plupart des joueurs. Elles sont peu nombreuses, mais certaines d'entre elles devraient titiller si ce n'est bousculer les joueurs à la recherche de challenges. Une fois la campagne terminée, il est possible de réaliser un donjon spécial qui permet de débloquer le niveau de monde 3, un niveau de monde qui permet de rendre le jeu plus difficile, d'accéder à des objets de rareté sacrée et d'accéder à ces nouveaux défis. Ce sont les donjons du cauchemar qui promettent le plus de rejouabilité grâce aux sigils, des amulettes qui rendent les donjons plus difficiles en lui collant des caractéristiques spéciales. Par exemple, le joueur se soigne plus facilement, mais les ennemis peuvent se téléporter ainsi qu'infliger des dégâts de glace. Un principe qui sert la promesse de base du jeu, parfaitement conjuguée avec la grande quantité de donjons disponibles. On peut alors y récupérer d'autres sigils, mais aussi des glyphes à insérer dans son parangon. Dans un second temps, c'est aussi l'arbre des murmures qui est disponible. Loin des combats sous tension des donjons du cauchemar, l'arbre des murmures offre au joueur une cache contenant des pièces d'équipement de la catégorie de son choix. Pour avoir le droit à ce coffre, il suffit de réaliser des activités dans une zone prédéfinie pour récupérer des tribus. 10 de ces tribus et le deal sera conclu. L'arbre des murmures devient vite redondant pour un personnage à haut niveau, mais constitue une excellente manière d'équiper rapidement ses personnages secondaires. Dans un défi un peu plus corsé, les vagues infernales semblent parfaites pour ceux à la recherche d'un compromis entre l'arbre et les donjons. De manière aléatoire, une zone d'estuaire sera envahie par les démons. Les vaincre donnera aux joueurs des cendres qu'il pourra utiliser pour ouvrir des coffres disséminés dans la région. Quelque chose d'autant plus intéressant à réaliser quand on sait que les mêmes coffres offriront toujours la même catégorie de pièces d'équipement. Il y a également les champs de la haine et les boss mondiaux que les joueurs pourront faire une fois la campagne terminée. Le premier est une zone fixe faisant office de zone joueur contre joueur. Elle n'apporte pour le moment que des cosmétiques et semble afficher des difficultés de mise à l'échelle des dégâts entre deux personnages au niveau différent. Enfin, les boss mondiaux sont des monstres titanesques à affronter par groupe de 12 en un temps limité. Des affrontements épiques grâce à la musique et la caméra très surélevée qui permet une fois par semaine d'avoir un équipement plus qu'intéressant. Si le contenu endgame semble prometteur plus que révolutionnaire, il ne faut pas oublier l'arrivée des saisons. Blizzard semble avoir prévu les choses en grand et cela pourrait grandement changer l'expérience de jeu. Rendez-vous en juillet pour la saison 1 et il ne faut pas non plus oublier l'intégration de la boutique et du Battle Pass qui s'est faite donc ce mois-ci. Sur tous les points abordés précédemment, Diablo 4 excelle, mais c'est surtout sa direction artistique qui peut faire office de réel point fort. Donc j'ai déjà parlé des cinématiques qu'on aurait préféré voir au cinéma, les différents biomes également évoqués arrivent à se renouveler sans cesse, La valse lancée entre les jeux de lumière, le cycle jour-nuit et la météo arrive à provoquer à nouveau la sensation de découverte. C'est d'autant plus vrai à dos de cheval, la caméra se relève d'elle-même et donne une autre perspective à l'exploration. Il est d'ailleurs bien dommage qu'on ne puisse pas la contrôler, elle est un peu trop rapprochée du personnage lorsqu'il est à pied, rendant parfois les choses compliquées à anticiper. Il y a également eu un travail fabuleux pour retranscrire l'ambiance générale d'Estuaire, en proie à un conflit qui dépasse ses habitants. Jamais en plus de 40 heures, la sensation de malaise, de désolation ou de pitié nous quitte. Une chose d'autant plus étonnante que paradoxalement, les décors provoquent régulièrement des exclamations saluant leur élégance. Diablo IV arrive à rendre beau, mais surtout vivant, les différents malheurs rencontrés par les citoyens d'Estuaire. Et on salue à nouveau le doublage d'excellente facture de la version française, qui donne toujours un peu plus d'âme aux peines de chacun. La bande originale est tout aussi formidable, elle comprend des clins d'œil à Diablo 2 et offre son lot de morceaux en tout genre qui se laissent écouter même en dehors du jeu. Des pistes adaptées à de la tristesse, de la désolation et des combats épiques, à du Diablo en somme. Voilà, donc du coup pour résumer les points forts du jeu, on a des personnages profonds et pleins d'âme, une bande originale magistrale, un jeu qui s'adresse à tout le monde en termes de difficulté, une mise en scène éblouissante, une prise en main quasi immédiate et on a également une ambiance visuelle impeccable et un contenu colossal. Pour les points faibles, on a une ergonomie pas au rendez-vous, la gestion fastidieuse des talents, la caméra pendant les premières heures de jeu, un léger manque de variété dans le bestiaire et on aurait aimé le petit plus révolutionnaire. Voilà, du coup on va pouvoir s'écouter tout de suite la chanson Lilith interprétée par LC et Suga du groupe BTS, un single qui est sorti à l'occasion du lancement de Diablo 4 et on revient juste après. The more that you have, the more that they take. Well, I'm perfection when it comes to indiscretion. Wrap around and just succumb to my aggression. I taste blood and it's turned to an obsession. Baby, I'm confessing, yeah. Got me thinking that I was too mean. Well, everything that I say I believe. Tuck a knife with my heart up my sleeve and change like a season. Reason for nothing, I am disruptive. I've been corrupted. By now I don't need a introduction. I've been gone, cause I've been on this road too long. You know I get too caught up in the moment. I can't call it love if I show it. I just pick things up if you know. Donc c'était la chanson Lilith, interprétée par Alcee et Suga, un single sorti à l'occasion du lancement du jeu Diablo 4. On va faire une petite pause publicité et on revient juste après pour les tops des ventes de jeux vidéo de la semaine dernière. Une news jeux vidéo, une news événement et on finira avec les sorties de la semaine. À tout à l'heure.
À vos manettes, quittez la vie réelle pour plonger dans un monde de pixels. Cordialement Geek, la chronique high-tech et jeux vidéo avec Loli sur Neptune FM.
Rebonsoir, re-bienvenue sur Neptune FM pour la deuxième partie de l'émission Cordialement Geek. On va tout de suite commencer avec le top des ventes de jeux vidéo de la semaine dernière. Donc le top 5, on a en 5ème place Call of Duty Modern Warfare 2 sur PS5, un jeu d'Activision Blizzard. En 4ème place, c'est Diablo 4, le pack Crossgen sur PS4, un jeu d'Activision Blizzard. En 3ème place, c'est Diablo 4, le pack Crossgen pour la Xbox Series. En 2ème place, c'est The Legend of Zelda Tears of the Kingdom sur Nintendo Switch, un jeu de Nintendo. Et en 1ère place, c'est donc Diablo 4 sur PS5. Le top 3 pour la PS5, on a en 3ème place Street Fighter 6, en 2ème place Call of Duty Modern Warfare 2 et en 1ère place Diablo 4. Pour la Xbox Series, on a en 3ème place Street Fighter 6, en 2ème place Diablo 4 et en 1ère place c'est Diablo 4, le pack Crossgen. Pour la PS4, on a en 3ème place Street Fighter 6, en 2ème place Hogwarts Legacy et en 1ère place Diablo 4, le pack Crossgen. Pour la Xbox One, on a en 3ème place WWE 2023, en 2ème place FIFA 23 et en 1ère place Hogwarts Legacy. Pour la Switch, on a en 3ème place Mario Party Superstars, en 2ème place Mario Kart 8 Deluxe et en 1ère place The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Le dernier top, c'est le top 3 PC avec en 3ème place Football Manager 2023, en 2ème place Pro Cycling Manager 2023 et en 1ère place Microsoft Flight Simulator, l'édition Deluxe Premium. On passe maintenant à la news jeux vidéo. Call of Duty Warzone se doit d'aller de l'avant et malheureusement cela passe par l'abandon d'une carte bien connue des joueurs que beaucoup appréciaient malgré tout. C'est hélas le propre d'un jeu service. Se devant d'évoluer et de tenir sur la durée, il faut parfois abandonner des fondements très appréciés pour repartir du bon pied. Savoir se renouveler n'est pas chose aisée et pour beaucoup de joueurs, tourner une page est un signe de trahison, pas toujours évident à digérer. C'est d'ailleurs pour cela qu'Activision a effectué une transition en douceur. Au lieu de stopper brutalement Call of Duty Warzone, l'éditeur a lancé Call of Duty Warzone 2.0 tout en laissant le premier jeu actif avec la carte de Caldera qui elle-même a remplacé la mythique Verdansk. Mais voilà, toutes les bonnes choses ont une fin. La nouvelle a tout simplement été annoncée sur les réseaux sociaux officiels du jeu. Caldera va bientôt fermer ses portes pour laisser place à de nouvelles choses. Je cite « Tandis que Warzone avance avec de nouvelles expériences passionnantes à venir, Warzone Caldera s'éteindra le 21 septembre. Tout le gameplay, la progression des joueurs, l'inventaire et les services en ligne de Caldera expireront à cette date. » De leur côté, les joueurs ne se réjouissent pas vraiment de cette nouvelle et le font savoir sur Twitter. La pilule ne passe pas, ou en tout cas pas pour le moment. Il reste donc encore quelques mois pour profiter de l'environnement tropical de Caldera. Passé cette date, la jungle disparaîtra pour, eh bien, on ne sait pas trop combien de temps. Difficile de savoir ce qu'entendent exactement les développeurs par nouvelles expériences. Est-ce qu'elles sont prévues sur le premier Warzone pour remplacer Caldera, ou est-ce qu'elles sont plutôt réservées à Warzone 2.0 exclusivement ? En d'autres termes, Warzone premier du nom pourrait bien s'éteindre en 2023. Voilà, donc affaire à suivre. On passe maintenant à une petite news événement, donc jusqu'au 16 septembre, retour aux origines du jeu vidéo à la Vendetech de la Châtaigneraie, avec une exposition consacrée au rétro gaming. Donc après le succès de l'exposition consacrée à la photographe Viviane Mayer, le département de la Vendée vous invite une nouvelle fois à la Vendetech de la Châtaigneraie. Cette fois-ci, place aux jeux vidéo et en particulier à ses origines. Redécouvrez les consoles mythiques qui ont marqué des générations de joueurs comme la NES, la PlayStation 1 ou encore la Mega Drive. Retrouvez des personnages mythiques des plus grandes séries de jeux comme Mario, Link ou encore Samus. Une exposition qui permet grâce aux panneaux explicatifs de mieux comprendre les premières années du jeu vidéo, les différents genres mais aussi ses liens avec d'autres disciplines artistiques. Dans les différentes salles de l'exposition, installez-vous dans les fauteuils à votre disposition, prenez des manettes dans vos mains et plongez-vous dans vos meilleurs souvenirs vidéoludiques. C'est une exposition interactive qui nous ramène quelques années en arrière, C'est aussi une exposition intergénérationnelle dans laquelle les jeunes vont découvrir les jeux d'enfance de leurs parents, souligne Valentin Josse, conseiller départemental du canton de la Châtaigneraie. Donc concernant le programme, si ça vous intéresse, je vais faire donc la petite liste. Mercredi 28 juin à 16h, donc c'est la semaine prochaine, on a l'heure du compte des 3 ans. Mercredi 5 juillet à 20h30, ça sera question pour un gamer. Vous pourrez tester vos connaissances sur l'histoire des jeux vidéo. C'est dès 7 ans. Donc en fait, c'est tous les mercredis. Hein. Donc le 12 juillet, ensuite, on a à 14h30 des jeux de plateau. Vous pourrez découvrir des jeux de société inspirés de l'univers des jeux vidéo et vice-versa. Donc ça, c'est dès 8 ans. Mercredi 26 juillet à 15h, ça sera un atelier pour fabriquer sa propre console rétro dès 8 ans. Mercredi 30 août à 14h, on aura un tournoi de Street Fighter. Vous pourrez vous affronter sur le jeu de combat mythique des années 90, donc c'est à partir de 11 ans. Le mardi 12 septembre à 20h30, ça sera une conférence sur les jeux vidéo. Donc la conférence c'est « Les jeux vidéo, c'est du sérieux » par Vanessa Lalo, c'est pour tout public. Et enfin, la dernière petite animation de cette exposition, ça sera samedi 16 septembre à 16h avec une rencontre avec Vincent Joyot, un créateur vendéen de jeux vidéo, donc c'est pour tout public. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez avoir plus de renseignements et faire des réservations directement auprès de la Vendetech de la Châtaigneraie. Donc je vous donne le numéro de téléphone, 02 51 53 66 40. Et sinon, vous pouvez envoyer un mail à arentel@vendee.fr. Voilà, donc vous retrouvez toutes les informations si ça vous intéresse aussi sur Internet. On va maintenant finir l'émission avec les deux petites sorties de la semaine. Donc on a eu une sortie aujourd'hui vendredi 23 juin avec Sonic Origin Plus sur PC, PS5 et Xbox Series. Et la dernière sortie de la semaine, ça sera pour mardi 27 juin avec Story of Seasons, A Wonderful Life, qui sera disponible sur PC, PS5 et Xbox Series.
Cordialement Geek, la chronique high-tech et jeux vidéo sur Neptune FM.
Donc voilà, c'est ce qui termine l'émission de Cordialement Geek de cette semaine. Je rappelle que vous pouvez me retrouver sur Facebook pour l'émission Cordialement Geek, mais aussi pour notre émission Asian Bubble, que vous pourrez retrouver lundi prochain de 21h à 22h sur Neptune, comme d'habitude. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end et à tchè fête.
Retrouvez Cordialement Geek chaque vendredi à 18h30 avec Loli sur Neptune FM. À retrouver en podcast sur neptunefm.com.